J'espère que vous allez bien. C'est vraiment un plaisir de pouvoir se retrouver dans la présence de Dieu, de pouvoir lui apporter la louange également, parce que c'est quelque chose qui est cher au cœur de Dieu et également en louant le Seigneur, ça nous bénit, parce que Dieu est sensible aux louanges qu'on lui apporte et quand on touche le cœur de Dieu, Dieu étant un père qui aime ses enfants, ne peut que apporter la bénédiction à ses enfants. D'où l'importance de pouvoir élever notre cœur et pouvoir lui apporter le meilleur de nos louanges lorsque nous nous retrouvons le dimanche matin ensemble. J'espère que vous allez bien ce matin. En tout cas, j'espère que vous êtes heureux d'être avec nous, avec les frères et sœurs. Croyez-vous que la parole de Dieu peut encore répondre aux questions de notre vie, peut encore pouvoir nous accompagner, nous donner la force aussi pour traverser peut-être les épreuves de nos vies. Alléluia. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse, sans plus tarder, ouvrir un texte et lire un texte qu'on connaît très bien, qui est dans Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Je lirai dans la version Summer. C'est un texte qu'on connaît très bien, mais qui m'a encore interpellé parce que, bien souvent, des textes qu'on connaît bien, on les passe rapidement et on oublie, en fait, l'enseignement fondamental que Dieu veut nous donner au travers de ces textes. Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27, il est dit: Jésus monta dans une barque et ses disciples le suivirent. Tout d'un coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus la barque. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !» Jésus leur répondit « Pourquoi avez-vous si peur? Votre foi est bien petite. » Alors, il se leva, parla sévèrement au lac et au vent, et il se fit un grand calme. Saisi d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient « Quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent ?» Amen. J'aimerais qu'on prie avant d'aller plus loin. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta parole que nous avons pu lire, Seigneur, ce matin. Seigneur mon Dieu, ta parole est un guide, Seigneur, pour notre vie. Et mon Dieu, nous croyons, Seigneur, qu'elle a la puissance de pouvoir nous diriger, nous instruire. Et mon Dieu, ma prière ce matin, c'est de vraiment pouvoir que ce message puisse ne pas être que des mots, Seigneur, mais que ton esprit puisse vraiment rendre vivant ces paroles à nos cœurs. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de pouvoir parler à chacun de nos cœurs par ton esprit ce matin. Seigneur mon Dieu, que celui qui est, mon Dieu, éprouvé par une tempête, par une épreuve, puisse écouter encore, mon Dieu, le message que tu as à lui donner ce matin. Seigneur mon Dieu, je te prie vraiment de nous remplir de ton esprit. Mon Dieu, vraiment que ta parole puisse ouvrir nos yeux encore. Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, je te prie. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, j'ai intitulé le message « Comment réagis-tu face à la tempête ?» Comment réagis-tu face à la tempête ? Et j'aimerais commencer juste mon message par une petite anecdote, une petite histoire qu'un de mes profs de faculté me donnait lorsque j'étais encore étudiant. Il me racontait une histoire lorsqu'il était nécessaire de pouvoir étudier un contexte, étudier un texte et analyser la situation. Il me racontait l'histoire de l'éléphant et des aveugles. Alors peut-être que vous la connaissez, c'est une histoire en fait où on met 7 aveugles dans une pièce avec un éléphant. Et en fait, les aveugles ne voyant pas, on leur demande de toucher l'éléphant et de savoir et de deviner ce que peut être également l'éléphant. Et en touchant, le professeur nous disait que voilà, le premier aveugle, lorsqu'il touchait l'éléphant, il touchait par exemple le flanc de l'éléphant et il disait ça m'a tout l'air d'être un mur. Le deuxième aveugle pouvait toucher les défenses de l'éléphant et en touchant les défenses de l'éléphant, voyant que c'est quelque chose de dur, d'allongé, pouvait penser que c'était une lance. Un autre encore pouvait toucher, par exemple, la trompe de l'éléphant, pensant que ça pouvait être peut-être une corde. Tout simplement pour nous dire que les aveugles avaient une perception différente de ce qu'était l'éléphant sans voir qu'en fait il y avait quelque chose de bien plus grand, un contexte bien totalement différent de ce qu'ils pouvaient ressentir à leur toucher, parce qu'ils ne le voyaient pas. Tout simplement, je veux apporter cette petite anecdote pour vous dire que des fois, dans nos épreuves, on est fixé sur la tempête, sur les épreuves que nous traversons. Notre perception de la tempête est biaisée parce qu'on est fixé que sur cette épreuve, alors que ça s'inscrit dans un contexte bien plus grand, dont Dieu est le maître, dont Dieu est le gérant, dont Dieu dirige la situation. Et j'aimerais en fait que tout simplement, on puisse être amené à changer notre perception de la tempête comme Dieu lui-même voit la tempête dans nos vies. Est-ce que vous comprenez l'idée? Comment réagis-tu face à la tempête? On peut voir que la perception des disciples, au départ, lorsqu'ils sont pris par les vents, par le lac, par la tempête, c'est qu'ils subissent la tempête. Ils subissent la tempête. Et ça peut être bien souvent la perception que nous avons de la tempête, c'est, et des épreuves, c'est subir notre épreuve et encaisser les coups, encaisser les vagues qui viennent se jeter contre notre barque. Et tout simplement parce que les barques nous ramènent à un moment d'effroi, à un moment de peur. Les flots nous amènent à pouvoir penser que ils vont nous entraîner avec eux au fond de la mer et nous noyer, nous faire sombrer dans la tempête. Et seulement on peut voir dans l'histoire que Jésus va les amener à voir leur épreuve d'une manière totalement différente. Il va leur donner un enseignement. Et j'aimerais, dans un deuxième point, qu'on puisse voir quel est l'enseignement de Dieu à la tempête. Mais le premier point, c'est qu'on peut voir que, bien souvent, on est focalisé à subir la tempête. Et pourquoi on subit la tempête? Parce que une tempête, une épreuve, c'est souvent quelque chose, une catastrophe inattendue. Quelque chose dont on ne s'attend pas et qui nous met KO. KO parce que on apprend un beau jour que nous tombons malades, une maladie qui arrive, un cancer. Ça peut être une lettre que nous recevons dans notre boîte aux lettres qui nous dit que nous sommes licenciés. Merci pour vos fidèles et bons services, mais nous ne pouvons plus continuer avec vous. Ça peut être tout simplement un appel, un coup de téléphone qui nous dit voilà et qui nous annonce que un être cher nous a quittés. Et tout à ce coup, l'épreuve arrive, elle est inattendue, et là, on est KO face à la tempête. Et on ne sait plus comment réagir. On est sans force, écroulé. Elle ne prévient pas. Vous savez, la tempête, en général, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils arrivent subitement. Le verset nous dit que tout à coup, la tempête arriva. Tout à coup, la tempête arriva. Il faisait un super beau ciel. Les disciples venaient de vivre des bénédictions parce que Jésus avait provoqué, avait fait des miracles, il avait guéri des malades. Et pourtant, il les amène à aller dans cette barque et à vivre la tempête. Ah, tout d'un coup, elle arrive. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'arriver à vivre une tempête dans une barque, réellement. En général, c'est quelque chose un peu d'atypique. Et si je vous en parle, c'est parce que pour moi, cette histoire sonne à un écho réellement mémorable dans mon esprit. Il y a déjà maintenant un peu plus d'un an, c'était pendant mon voyage de noces. Il y a déjà plus d'un an, je suis marié avec une femme merveilleuse, Dieu m'a béni, c'est vrai. Mais lors des voyages de noces, on a eu le privilège de partir aux Maldives. Je sais pas si vous connaissez les Maldives. Alors, oh la chance. Ben oui, les frères, c'est un peu comme aux Antilles, vous savez. Je connaissais pas. J'ai pu voir. J'ai peut-être eu une petite photo. Voilà ce que c'est les Maldives. C'est quelque chose de magnifique. C'est une carte postale. C'est paisible là-bas. Il fait chaud. Le soleil est sur nous. On met les pieds dans l'eau. L'eau est turquoise. Il y a les poissons qui viennent à notre rencontre. On les voit. C'est magnifique. C'est merveilleux. Il fait beau. On est béni. C'est le calme. On a l'impression que le temps s'arrête aux Maldives. Et en fait, si je vous parle de tout ça, c'est parce que à un moment, il nous a été proposé de pouvoir partir en mer. Parce que vous savez, en fait, les Maldives, pour ceux qui ne savent pas, c'est une archipel de près de 1200 îles, les unes à côté des autres. Et il nous était proposé de pouvoir aller visiter la vie locale dans une île à côté, 20 minutes de bateau, dans une petite barque. Et j'aimerais juste vous montrer juste les photos pour vous rendre compte un petit peu quelle était la fragilité de la barque. Parce que bon, on s'attend pas à ce qu'il y ait des tempêtes spécialement lorsqu'on va aux Maldives, vous comprenez? Tu vois, là, ça c'est notre petite barque, là c'est l'instructrice, vous voyez, il y a pas grand chose, il y a pas vraiment de quoi se tenir, et on est parti visiter l'île, tout était bien, les enfants riaient dans la barque, on était joyeux, le soleil était en train de frapper notre visage, on était très heureux, et c'est au retour de l'île, au bout de 5 minutes, alors qu'il y avait un soleil parfait, un vent commença à souffler, et gentiment, des nuages commencèrent à s'amasser dans le ciel. Des nuages tout d'abord blancs, qui commencèrent à noircir, et la pluie commençait à tomber gentiment. Mais au départ, vous savez, on est un peu bercé par les vagues. On se dit, oh, c'est bien, c'est bien. Et puis d'un coup, le vent commence à souffler de plus en plus fort, au point même que la barque commençait à se chahuter, à se soulever, limite à la verticale. Et quand je dis à la verticale, des fois on me dit, David, tu délires un peu, la verticale? Oui, la verticale. Au point même que les vents, ça se transformait en tempête, au point même que tout l'équipage, on était 40 personnes dans un petit bateau comme ça, sans quoi s'agripper, il y avait juste une petite rambarde pour s'accrocher. Je vous assure, si personne ne s'accrochait à la rambarde, les gens tombaient à l'eau. Les gens tombaient à l'eau. Le vent soufflait tellement fort. On a été pris de panique que subitement, tout le monde s'est mis à chercher un gilet de sauvetage. Il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Alors du coup, plusieurs ont dû se sacrifier. Je sais pas, je vous dirais pas, j'ai pris mon gilet. Je l'ai donné d'abord aux enfants et aux femmes, mais je vous avouerai que j'ai pris le gilet qu'on m'a donné. Non, mais il m'en manquait pour l'équipage. Tout simplement pour dire qu'il y avait un vent de panique dans le bateau. Et très sincèrement, à l'intérieur de moi-même, voyant la tempête souffler, chaque vague qui soufflait davantage et qui chahutait le bateau, je me disais, c'est bon, la prochaine, on part à l'eau. Et je commençais à me faire une raison, sérieusement, hein, tout le monde commençait à se faire une raison, à se dire, c'est bon, tout le monde va partir à l'eau. C'est fini pour nous. Et là, vous savez, devant cette tempête, la vie commence à défiler devant nous. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Comment je réagis? Et là, je commençais à prier à l'intérieur de moi-même, je me dis, Seigneur, vous savez, c'est très bon d'avoir le secours de Dieu et chercher le secours de Dieu. Mais je veux en arriver à là, c'est que je cherchais le secours de Dieu dans ma tempête, et c'est vrai que Dieu m'apaisait. Parce que je me disais sincèrement, au final, si c'est mon heure, et pourtant je pensais que c'était vraiment trop tôt, hein, au bout d'une semaine de mariage, Seigneur, t'en as pas fini avec nous. Je pensais pas que c'était le moment, mais franchement, je m'attendais à sortir de l'eau, sincèrement. Ma femme, l'équipage, les enfants, tout le monde était dans la terreur la plus totale. Et intérieurement, je commençais à prier Dieu en me disant, Seigneur, voilà, si c'est ton heure, eh bien, que ta volonté soit faite. Et Dieu commence à me donner sa paix, mais à chaque moment où il y avait une vague nouvelle qui arrivait, un vent de frayeur arrivait, et tout de suite je revenais dans la tempête et je me disais, waouh, la peur venait à nouveau te ressurgir. Tout simplement pour dire que bien souvent, il est difficile de garder son calme et se confier en Dieu dans la tempête. C'est une réalité, hein. C'est difficile des fois parce que la tempête, les vents soufflent tellement fort que même si Dieu est notre secours, la réalité elle est là, elle nous rattrape. Et on se dit, on va périr. Et bien souvent, les questions qui nous amènent à nous traverser l'esprit, c'est pourquoi Dieu permet-il qu'on passe ce type de tempête? Seigneur, je suis ton enfant après tout. Pourquoi tu permets une telle chose? Je suis aux Maldives avec ma femme, c'est mon voyage de noces. Et toi, tu vas nous permettre au bout d'une semaine de mourir. Peut-être que c'est ton cas pour ta tempête. C'est une image, hein, mais ça parle bien. Tu peux te dire, mais pourquoi, Seigneur? Et des fois, du pourquoi, ça peut virer à l'amertume. Tu ne te soucies pas de moi, Seigneur. Et on peut voir une chose, c'est que ça s'amplifie. On peut se sentir abandonné, c'est la diapo suivante. On peut se sentir abandonné de Dieu dans notre tempête. Parce que le verset nous dit que Jésus dormait dans la barque. Et le texte équivalent de Marc nous dit que les disciples sont venus chercher Jésus en criant à Jésus, en lui disant, eh oh, réveille-toi là, Seigneur. Ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons? Ça veut dire qu'en gros, les disciples commençaient à reprocher à Jésus qu'il ne se souciait pas d'eux dans la tempête. Tu peux commencer, et c'est un sentiment qui peut apparaître au fond de nous-mêmes, commencer à reprocher à Dieu de ne pas se soucier de nous dans nos tempêtes, du silence de Dieu dans nos tempêtes, commencer à être rempli d'amertume, rempli de colère, à cause que Dieu ne vient pas nous délivrer dans la tempête. On subit la tempête. L'axe de notre regard est focalisé sur la tempête. J'aimerais vous dire une chose. La première des choses que je constate quand on lit bien les Écritures, et c'est un élément fondamental qu'on oublie dans la tempête, c'est que le Seigneur est pourtant dans la tempête, dans notre barque. Alléluia. Le Seigneur est dans la barque des disciples alors qu'ils étaient dans la tempête. Et on l'oublie vite, ça. On l'oublie vite. Et il y a un verset qui me vient, qui me dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? On connaît la parole de Dieu. Mais bien souvent, on a du mal dans nos tempêtes à la mettre en pratique. Et c'est là où je veux en venir. L'enseignement de la tempête. C'est que Dieu ne veut pas que nous subissions la tempête, mais il y a un enseignement derrière tout ça. C'est que Dieu veut nous amener à grandir, et c'est mon deuxième point, à grandir par le moyen de la tempête. Et c'est difficile de grandir au moyen de la tempête. Mais c'est pourtant une des manières que Dieu veut nous amener à vivre pour grandir dans la tempête. si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Vous savez, ça, un verset comme ça, ça peut ne rien provoquer dans un cœur, ça peut être des paroles, mais qui n'ont aucun sens, aucune valeur pour celui qui ne connaît pas Dieu, pour celui qui ne remet pas sa foi en Dieu. Et on vient au cœur de l'enseignement. C'est que bien souvent, on oublie de remettre notre foi en Dieu au milieu de la tempête. Et c'est l'instruction que Dieu veut nous donner lorsque Dieu veut nous faire grandir dans la tempête. Qu'est-ce qu'il veut faire grandir exactement? Dieu veut nous faire grandir dans notre foi. Et ce qu'on peut voir, c'est que le verset 26 nous dit que Jésus leur répond au moment où il les réveille en leur disant « Pourquoi avez-vous si peur? Votre foi est bien petite. Votre foi est bien petite. » On voit qu'en fait, Jésus, dans la tempête, Jésus est conscient, c'est lui le Seigneur, il maîtrise toutes choses, c'est lui qui savait à l'avance, parce qu'il est Dieu, que les disciples, en leur demandant d'aller dans la barque, aller vivre cette tempête, Jésus est conscient qu'il allait leur faire vivre cette tempête. Donc c'est un enseignement qu'il veut leur donner. Il leur dit, et il leur fait un reproche, « Votre foi est bien petite. » On peut s'apercevoir d'une chose, c'est que Dieu, dans la tempête, veut faire grandir ta foi. Parce que Dieu sait que la foi pour un enfant de Dieu, pour celui qui lui appartient, c'est quelque chose de primordial. C'est quelque chose qui lui fait de lui un vainqueur. C'est pas pour rien que la Bible nous dit que la foi est comme un bouclier qui éteint les traits enflammés du malin. Ça veut dire que Jésus est conscient que sans le bouclier de la foi, le chrétien, son enfant, son disciple est à la merci de tous les traits enflammés du malin. Ça veut dire que sans la foi, Jésus est conscient que oui, dans ta tempête, tu vas sombrer. Ça veut dire que sans la foi, oui, effectivement, Jésus est conscient que tu vas à ta perte. C'est pourquoi il veut nous fortifier dans la foi. Et pourtant, il dit bien, votre foi est petite. Ça veut dire que les disciples avaient quand même la foi. On peut voir que dans tous les évangiles, Jésus avait fait des miracles en leur présence. On peut voir que pourtant leur foi avait été nourrie par des miracles que Dieu avait fait, des malades guéris, des possédés qui étaient délivrés. Donc ils étaient déjà spectateurs de la gloire de Dieu. Et ça nourrit notre foi de pouvoir voir Dieu agir. Mais plus encore, on peut voir que Dieu leur avait donné autorité pour pouvoir eux-mêmes guérir des malades et délivrer des possédés. Donc ces hommes-là étaient des hommes de foi. Qui dernièrement a réussi à, au nom de Jésus, à guérir un malade? Eh, ces hommes-là étaient des hommes de foi. Mais qu'est-ce que Dieu voulait leur montrer? Une nouvelle épreuve qu'il voulait leur faire vivre parce que la tempête était quelque chose qu'ils n'avaient encore jamais connu et qui était pour eux encore quelque chose d'insurmontable. Et il voulait leur montrer une chose, c'est que par la foi, ce type d'épreuve-là aussi, Dieu peut leur rendre encore vainqueur et leur donner la puissance de dominer ce type d'épreuve. La tempête. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans une tempête et tu ne sais pas comment t'en sortir. J'aimerais te dire une chose déjà, c'est que Dieu veut te donner en fait une instruction derrière tout ça. La tempête va servir à faire grandir ta foi. J'aimerais vous dire une chose, c'est que Dieu attache énormément d'importance à notre foi. J'aimerais vous dire une chose, c'est que les disciples vivaient cette épreuve, mais allaient en vivre encore de plus grandes à l'avenir. On voit dans les évangiles encore que, alors que Jésus s'apprête à les quitter, à partir sur le mont Golgotha, à souffrir la croix, il leur dit avant, et il s'adresse à Pierre en disant, « Simon, je sais que le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. J'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. » Ce qui nous montre bien une chose, c'est que Jésus, qui connaît toutes choses, qui a une vision totale de la situation de notre vie, sait qu'il est obligé de nous faire passer par ces épreuves pour fortifier notre foi, parce qu'il sait que dans l'avenir, d'autres épreuves encore plus difficiles pourront arriver. Mais il veut nous rendre vainqueurs sur les épreuves. Et en fait, ces épreuves que nous vivons momentanément nous permettent de nous rendre plus forts encore pour pouvoir surmonter celles qui pourraient arriver à l'avenir. Vous comprenez ? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ce qui me montre aussi une chose, c'est que dans ton épreuve aujourd'hui, protège ta foi. Dieu veut faire grandir notre foi dans les épreuves, mais déjà une première des choses, c'est que lorsque tu te trouves dans l'épreuve, le premier réflexe que nous devons avoir, mes amis, c'est déjà d'avoir comme à nous protéger dans la foi, protéger notre foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, vous savez, vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que pour protéger ta foi dans l'épreuve, médite la parole de Dieu. Cherche du refuge dans la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, Dieu a des paroles pour fortifier ta foi, pour t'encourager dans ton épreuve, pour te rendre victorieux dans l'épreuve. Parce que Dieu ne veut pas que tu sombres dans ta tempête, Dieu veut te rendre victorieux au travers de l'épreuve et faire grandir ta foi. Alléluia. Alléluia. J'aimerais aussi voir une autre chose dans ce texte qui nous dit, qui nous montre encore en quoi Dieu veut nous faire grandir. C'est qu'on peut voir une chose, c'est que à un moment, les disciples vont voir Jésus, le réveillent, et Jésus va menacer les vents et va menacer la tempête. Et à partir de ce moment-là, on peut voir que la tempête se calme. Alléluia. La tempête se calme. Et en fait, les commentateurs bibliques disent tous que, au final, le mot que Jésus emploie lorsqu'il parle de silence et qu'il menace la tempête, ça fait référence en fait au même terme que lorsque il l'emploie pour menacer une autorité spirituelle, lorsqu'il pouvait potentiellement menacer un démon de sortir d'une personne possédée. Et tout ça m'amène à penser en fait une chose, c'est que des fois au travers de nos épreuves, Dieu permet qu'on vive des épreuves. Il ouvre comme entre guillemets il met une brèche volontairement dans la protection qu'il nous donne pour que le diable nous éprouve. Et les disciples là n'en étaient pas conscients. On peut voir qu'en fait ils traversaient une épreuve, mais une épreuve qui était tout simplement mandatée par le diable pour les submerger, pour les détruire. On peut voir que Jésus fait silence et les menace. Et bien souvent, on ne comprend pas les tempêtes qu'on traverse. Et c'est après coup qu'on peut des fois en saisir le sens parce que Dieu nous le montre. Et quand on creuse dans le texte, on peut s'apercevoir que au chapitre suivant, Jésus met le pied sur la rive et la première des choses que l'on constate, c'est qu'il va se diriger vers deux personnes qui sont possédées, qui sont des gens que tout le monde fuyait, qui étaient totalement torturés dans leur situation. Et la première des choses, le premier objectif que Jésus va faire lorsqu'il pose le pied sur l'autre rive, c'est d'aller les délivrer. En fait, l'instruction derrière tout ça, c'est quoi ? C'est que Dieu veut également nous utiliser dans nos épreuves pour apporter la bénédiction à notre entourage. Les disciples n'avaient pas conscience, en fait, que Jésus, lorsqu'il leur disait « Montez maintenant, on va dans cette barque, on va traverser le lac, on va aller de l'autre bord », il ne leur avait pas expliqué le pourquoi il voulait aller de l'autre bord. Mais la première des choses qu'on voit, c'est que lorsque Jésus arrive à l'autre rive, la première des choses, c'est qu'il se dirige vers ces deux hommes et qu'il va les délivrer. J'aimerais vous dire une chose, c'est que Dieu peut employer nos épreuves pour bénir notre entourage, être un sujet d'encouragement pour notre entourage. J'aimerais vous dire une chose, que bien souvent, des hommes de Dieu dans la Bible ont été utilisés, Dieu leur a fait traverser des épreuves, et au final, on a pu voir, parce que nous avons toute l'histoire, on peut connaître tout le contexte, on a comme un aperçu global. Eux, ils vivent dans leurs problèmes, au moment, à l'instant T, comme toi, tu vis ton problème, à l'instant où je te parle, mais nous, on connaît l'histoire. Par exemple, Joseph, lorsqu'il a traversé toutes ces épreuves, vous connaissez l'histoire de Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était dans son désert, ses frères l'ont vendu, il a été mis en esclavage, il s'est retrouvé en prison, il aurait pu se révolter contre Dieu. Son témoignage, sa foi en Dieu est resté irrésistible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait un plan déjà dans sa tempête. Dieu l'a élevé au rang de numéro 2 du royaume d'Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà en vue la famine qui allait arriver sur le pays et qu'il voulait à nouveau prendre soin de Jacob, de tous ses enfants, de toute sa tribu, de tout le peuple de Dieu. Donc ça veut dire qu'il avait fait traverser Joseph dans cette épreuve parce qu'il avait en vue de pouvoir protéger son peuple. Joseph était une bénédiction. La tempête de Joseph était une bénédiction pour son entourage. On arrive également à Paul et Silas. Vous connaissez cette histoire ? Paul et Silas qui annoncent l'évangile, ils se retrouvent en prison, on les fouette, on les bat, ils se retrouvent en prison, ils se mettent à louer le Seigneur. L'attitude dans la tempête, une attitude de foi, ils louent le Seigneur et subitement il est dit quoi? Il est dit que un tremblement arrive dans la prison et les murailles et les chaînes de leurs mains et de leurs pieds tombent. Et à ce moment-là, le gardien se donne au Seigneur, frappé par la puissance de Dieu et frappé aussi par le témoignage de ces hommes de Dieu. J'aimerais vous dire une chose, c'est que tu peux être une bénédiction pour ton entourage, pour ton collègue de travail, pour ta famille, tes enfants. Peut-être que ta maladie, tu le vois comme quelque chose qui est une injustice de Dieu. j'aimerais te dire, garde ta foi en Dieu, parce que Dieu veut faire grandir ta foi. Mais Dieu veut également utiliser ton épreuve comme un témoignage vivant de l'amour qu'il a pour toi, de la confiance qu'il peut te donner dans la tempête, parce que Dieu veut te donner la confiance dans la tempête, pour que ton témoignage puisse servir également à encourager ceux qui traversent également cette tempête. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? J'ai juste un dernier point à vous partager. Dieu veut faire grandir notre foi. Dieu veut utiliser nos tempêtes pour nous bénir. Et j'inviterai aussi les musiciens du coup à s'avancer. Et le troisième point, c'est que Dieu veut nous montrer une nouvelle révélation de qui il est. Dieu veut nous montrer une nouvelle révélation de sa personne. Vous voyez, le verset 27, il est dit « saisi d'étonnement, ceux qui étaient présents, ses disciples, ceux qui étaient présents, disaient « quel est donc cet homme pour que même la tempête, pour que même les vents et le lac lui obéissent ? Quel est cet homme ?» Vous savez, ces personnes qui disent « quel est cet homme ?» sont les mêmes personnes qui, durant des années, vivaient au jour le jour avec Jésus. Ils vivaient au jour le jour avec Jésus. Plus tu connais, plus tu côtoies une personne, plus tu la connais, plus tu sais qui elle est. Et on voit une chose, c'est que les disciples devaient connaître très bien Jésus. On pourrait dire qu'ils avaient fait le tour de Jésus au bout des années. Ils avaient fait le tour de sa personnalité, le tour de qui il était. Ils pouvaient dire « je suis un collapse sur Jésus ». Non. On voit une chose, c'est qu'ils sont surpris de redécouvrir un homme qu'ils côtoyaient au jour le jour. Ils lui ont dit « qui est donc cet homme ?» pour qu'il puisse même avoir l'autorité sur la tempête et sur les vents. Qui est cet homme ? J'aimerais vous dire une chose, c'est que Dieu nous amène à vivre des fois des tempêtes pour qu'on puisse à nouveau avoir notre vision qui s'élargit sur sa personne également. Voyez, le fait de pouvoir voir Jésus nous soutenir dans la tempête, c'est quelque chose qui peut être nouveau pour nous face à un problème nouveau. On peut voir que lorsque tu es dans ta tempête, t'es dans ta barque, une petite barque fragile, et au milieu de l'océan, au milieu de la tempête, il n'y a rien d'autre. Je veux dire, tes diplômes ne servent à rien. Ton argent ne sert à rien. Ton intelligence ne sert à rien. Tu es démuni, tu es face à toi-même. Tu, avec la vie, parce qu'avec les bénédictions de Dieu, tu pourrais te glorifier de pouvoir avoir et d'être le meilleur et d'avoir fait ci, d'avoir accompli ça, et peut-être même arriver à penser que tu as tout ça par toi-même. Dieu, des fois, veut nous amener à vivre des tempêtes pour nous amener à nous voir tels que nous sommes réellement. Des gens humains, des mortels, des gens qui n'ont le pouvoir de rien faire sans la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que lorsque tu es dans ta barque et que tu n'as plus rien, si ce n'est que de te mettre à genoux, de pouvoir implorer le Seigneur de te bénir et de te délivrer, tu fais des expériences nouvelles avec le Seigneur. Je suis sûr que parmi vous, beaucoup ont déjà fait ce type d'expérience. J'ai fait ce type d'expérience. On a tous des tempêtes différentes. On a tous, et on pourrait se dire, ouais, bah, à côté, toi, t'es un petit enfant de cœur, David. Oui, mais j'ai eu mes tempêtes. Des tempêtes qui m'ont amené à penser que j'allais couler, j'allais sombrer. Et dans mes tempêtes, j'aimerais vous dire une chose. J'ai crié à l'Éternel et l'Éternel m'a délivré. Parce que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Ça veut dire que ce qui est véritable pour moi est véritable pour vous et véritable pour tout enfant de Dieu. Celui qui est un disciple de Christ. Alléluia. Dans ta tempête, vas-tu la subir ou vas-tu chercher l'enseignement que Dieu veut te donner ? J'aimerais finir par ça parce que ça peut être une pensée également pour quelqu'un ici. Dieu a demandé à ses disciples de monter dans la barque et de pouvoir aller de l'autre bord. On voit déjà la notion de Jésus avait en tête de franchir une nouvelle étape avec eux. Allons de l'autre bord. Dieu voulait encore quelque chose de nouveau. Bon, bah maintenant, voilà. Des fois, on peut être un peu blasé on peut se sentir blasé de notre vie avec Dieu. J'aimerais vous dire une chose, c'est que si tu as vraiment soif de vivre d'autre chose, alors apprête-toi à potentiellement vivre de nouvelles épreuves. Parce que ce qui signifie vivre de nouvelles choses avec le Seigneur signifie que Dieu va vouloir t'amener à vivre de nouvelles grandes choses avec lui. Et vivre des épreuves pour que tu puisses voir sa main agir. Es-tu prêt à ça ? Mais j'aimerais aussi finir sur une chose très importante. C'est que Jésus s'est adressé à ses disciples pour monter dans la barque. et il les a amenés à affronter la tempête. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Est-ce que Jésus est dans votre barque? Est-ce que Jésus est réellement dans votre barque? Parce que vous savez une chose, c'est que c'est vrai. Il y a toutes les raisons d'avoir peur de pouvoir subir la tempête si Jésus n'est pas dans notre barque. Parce que si Dieu n'est pas avec nous, alors oui, on a toutes les raisons d'avoir peur pour qui sera contre nous. Est-ce que Jésus est dans ta barque? Est-ce que tu l'as invité? J'aimerais qu'on s'incline et qu'on réfléchisse sur notre vie. Parce que effectivement, il y a ceux, et je vais faire un appel pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie, à venir dans leur barque. Parce que tu traverses peut-être une tempête et tu sais que tu vas couler et tu sais que tu n'as pas Jésus dans ta barque. Alors dans ce cas-là, j'aimerais déjà que tu puisses penser à ta vie. Comme moi, j'étais dans ma barque. En général, lors de la tempête, on voit notre vie défiler et on peut prendre peur si Jésus n'est pas dans notre barque. Si Jésus n'est pas dans ta barque, commence à reconsidérer toutes tes priorités et commence à demander au Seigneur qu'il vienne dans ton cœur. J'aimerais aussi parler aussi à tous les chrétiens, mais des chrétiens qui ne sont pas des disciples. Et ça, il n'y a que chacun d'entre nous qui pouvons également le dire. Parce que bien souvent, on s'étonne de vivre des tempêtes, on vit des tempêtes, on en veut à Dieu, mais des fois on vit des tempêtes parce qu'on n'a tout simplement pas obéi à ce que Dieu nous a demandé de vivre. Et des fois on se retrouve dans des situations mais incroyables parce qu'on n'a pas su écouter la parole de Dieu. Et on se retrouve dans des tempêtes et on reproche à Dieu nos mauvaises actions. Un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est discipliné envers et qui est prêt à obéir à Jésus. Est-ce que ta vie est une vie de disciple vis-à-vis de ton maître qui est Jésus? C'est ça qui fait toute la différence, mes amis. Est-ce que tu es un réel disciple du Seigneur Jésus? C'est pas t'en faire douter, mais j'aimerais juste qu'on puisse reconsidérer nos voies vis-à-vis du Seigneur pour pas que la tempête nous emporte à cause de nos mauvaises actions, nos mauvais faits et gestes, mais que réellement, le Seigneur ait la liberté d'agir dans nos vies. On va chanter ce chant pendant que on va réfléchir sur nos vies. Même si les océans se déchaînent, je serai avec toi et après je ferai un appel, mais que ce chant puisse être encore un moment de réflexion pour chacun d'entre nous, sur notre vie, sur nos tempêtes, sur l'enseignement que Dieu veut nous donner. Alléluia, Jésus. Amen. Est là, et encore, je pense que Dieu veut relever celui qui est dans la tempête. Dieu veut encore pouvoir encourager, fortifier la foi de celui qui est dans la tempête. Vous savez, c'est simple. La foi, c'est tout simplement remettre encore notre vie entre les mains de Dieu, notre sort en l'Éternel, et faire confiance dans ce que sa parole nous dit. J'aimerais encore peut-être juste vous donner ces trois versets que le psaume nous dit. Il est dit que Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant tout au fond des mers, quand grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Dieu est ton Dieu et Dieu a le pouvoir sur tous ces éléments. Si c'est ton cas ce matin, j'aimerais juste te demander encore de te lever. Et dans un élan de foi, crier à ton Dieu, le réveiller peut-être, qu'il puisse te fortifier dans la foi. Si c'est ton cas, crie encore au Seigneur, car Dieu veut t'aider dans ta tempête. Dieu ne veut pas te laisser dans ta tempête, car tu as du prix à ses yeux. Je laisse encore peut-être quelques secondes pour que celui qui veut encore, comme une démarche de foi vis-à-vis de Dieu, lui dire, voilà Seigneur, je veux encore reconsidérer mes voies et te dire que je suis prêt à remettre ma foi en toi pour ma tempête. Alléluia. Jésus a dit qu'il en soit fait selon votre foi. Dieu vous parle, alors s'il vous plaît, ne repartez pas sans avoir encore peut-être la bénédiction de Dieu. Alléluia, Jésus. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta parole qui nous explique encore et qui nous guide, Seigneur, au travers des épreuves de la vie. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que, Seigneur, tu es comme une lumière sur notre sentier. Tu nous guides, Jésus. Seigneur, tu domines, Seigneur, les tempêtes. Mon Dieu, je te remets entre tes mains les vies de toutes les personnes qui, ce matin, sont là et qui ont besoin de toi dans leurs tempêtes, qui traversent des tempêtes et qu'ils se sentent submergés. Seigneur, mon Dieu, tu es le Dieu de leur vie. C'est tu es le Dieu de leur vie. Dans leur barque, je te prie, mon Dieu, un seul mot et la tempête se calme. Seigneur, mon Dieu, dirige-les. Mon Dieu, donne-leur la foi nécessaire de traverser cette épreuve. Dans le nom de Jésus. Amen. Hallelujah.